passe la parole à David Bernard, que nous connaissons tous, qui est analyste à Rennes, pour nous parler du dire d'une femme.
C'est courageux. C'est l'expérience.
Alors, donc, oui, je débute, comme j'ai mis dans mon argument, par un passage du séminaire Les Noms du Père, où Lacan donc avance deux propositions que j'ai trouvées aussi frappantes que complexes. À savoir, la première, pour l'homme, l'amour va sans dire, tandis que, pour une femme, la jouissance de la femme ne va pas sans le dire de la vérité. Donc on a l'idée qu'il y aurait un rapport différent des femmes et des hommes à se dire de la vérité. Alors je vais essayer un peu d'en éclairer les raisons pour ensuite en venir à ouvrir quelque chose de l'ordre d'une étude, d'un questionnement du rapport des femmes au dire d'une part et à la parole. Alors je ne peux pas là, malheureusement rapporter le contexte de cette citation de Lacan, qui suit en fait tout un développement sur Aristote, où Lacan précise d'une part ce qu'on y trouve chez Aristote pour la psychanalyse, à savoir la logique, l'écrit et le chiffre 3, le chiffre du réel, mais aussi ce qui y manque chez Aristote, à savoir le dire vrai. Donc je développe pas plus pour en venir directement aux commentaires de ces deux énoncés, qui donc ouvre à une clinique différentielle entre hommes et femmes concernant l'amour et le dire, et selon les logiques du tout phallique et du pas tout. La thèse, telle que je l'ai comprise en tous les cas, repose en effet sur l'idée première que le phallus est le masque autant que la cause du non-rapport sexuel. Le cas où le phallus viendra le plus masquer le non-rapport sexuel, précise Lacan, sera le cas de l'homme, du tout homme. Pour l'homme, l'amour va sans dire pour la raison que sa jouissance, définie par le infallique, viendra effectuer dans le registre de l'imaginaire cette sorte de recouvrement du trou du non-rapport. Pour l'homme, dit Lacan, ça va sans dire parce que la jouissance couvre tout, dit-il. L'amour, ça va sans dire, ajoute-t-il. Et c'est d'ailleurs très exactement pour ça qu'il, l'homme, n'y comprend rien à l'amour. Lacan insistera de nombreuses reprises dans son enseignement sur cette méprise de l'homme en amour. Et il avance sur ce point-là plusieurs raisons. Je retiens pour le moment celle-ci, à savoir qu'il n'y comprend rien du fait de son rapport imaginaire à la jouissance phallique, venant particulièrement masquer, lui masquer, que on ne peut aimer qu'à se faire comme n'ayant pas. Au point que, dira Lacan, quand un homme est femme, c'est à ce moment-là qu'il aime. Alors je passe à la seconde proposition qui concerne non plus l'homme, mais une femme. Une et non pas la. Quand on partira ici de cette jouissance féminine, autre et non plus phallique, qui fera notamment une femme, pas toute, à lui. Formule de Lacan. J'avais évoqué ce point-là à Médéline et j'y reviens aujourd'hui pour en faire valoir une autre conséquence. Il y a bien tout homme, mais à quoi ne répondra pas ce qui aurait dû incarner le deuxième sexe, toute femme. Il y a certes ce qu'un homme pourra tenter, ce que démontre Lacan selon une logique précise, à savoir faire d'une femme la cause de son désir. Plus précisément, faire d'une sa femme pour mieux faire exister la femme. Faire d'elle, dira Lacan, le dieu de sa vie. Autrement dit, son autre de l'autre. Comme il y aura aussi les arrangements et concessions qu'une femme sera prête ou pas à faire pour se faire cause de désir. Sans que cela veuille pour autant dire, nuance Lacan quand même, qu'elle ait du goût à cela. Précise ça. Mais reste que, quelles que soient ses tentatives, espoirs et promesses, une femme d'être femme demeurera pas tout à lui, au grand embarras de l'homme. Affect central dans ce que Lacan peut dire de la position de l'homme, l'embarras. Et pourquoi donc à son grand embarras, si ce n'est qu'une femme, et non ça, sera toujours en position d'incarner pour un homme l'heure de vérité que son fantasme entendait repousser. On sait en effet comment la grammaire du fantasme fomente et nourrit l'espoir d'un complément d'objet direct, tout en imposant pour tenter d'y parvenir la règle depuis longtemps diffamante, à savoir que le masculin le remporte toujours sur le féminin. Il s'agit là de cette idéologie phallique, pléonasme, que le fantasme voudrait soutenir et dont une femme, y échappant toujours pour une part, viendra alors révéler le mensonge et l'impuissance. Du coup, je reprends, la jouissance de la femme, elle, ne va pas sans le dire de la vérité, au sens où, notamment, cette jouissance fera une femme, pas toute, à lui, venant dès lors objecter à ce que tous les Acadiens et toutes les Acadiennes aillent tranquillement, sous le regard du maître, se ranger par deux, comme on nous l'a appris. Et c'est pourquoi, actant que pour l'homme, l'amour va sans dire, et que pour une femme, il ne va pas sans dire, Lacan peut conclure, une formule remarquable, ça fait commenter à Médéline, l'homme a se trompé, rencontre une femme. Il ne dit pas que, rencontrant une femme, il se trompe. Il dit que c'est parce qu'il se trompe qu'il peut rencontrer une femme avec laquelle tout arrive. Deux points, on sait ce qui arrive pour Lacan, c'est un texte toujours le réel, tout arrive, deux points, soit d'ordinaire ce ratage en quoi consiste la réussite de l'acte sexuel. Ainsi, donc, pour une femme, l'amour ne va pas sans le dire de la vérité, au sens de cette vérité du non-rapport sexuel qu'une femme, de n'être pas toute, pourra venir incarner. Au point que Lacan pourra alors faire s'équivaloir, se dire de la vérité, et ce qu'il nommera le dire d'une femme, dans le séminaire Les Noms du Père. Au regard des formules de la sexuation, que sera ce dire d'une femme? Il y a bien, en effet, le dire de l'homme, celui qui fonde une existence d'exception, ainsi qu'une universalité. Il s'agit là du « un du tout de l'homme », formulera Lacan. Avec sa conséquence, pour tous ceux qui croient qu'ils l'ont, et qui pour cela, non seulement iront par bande, mais feront bande à part, soucieux de protéger cet avoir. A contrario, le dire d'une femme sera justement le rappel fait de l'inexistence de cette exception côté femme, précise Lacan. Au un du tout de l'homme s'opposera non pas le un du tout de la femme, mais justement l'impossibilité de les dire toutes. Autrement dit, un autre un, celui du dénombrable, du une par une, avec l'impossibilité logique qu'on en vienne au bout. Et c'est pourquoi Lacan, me semble-t-il, distinguera de l'homme, du père éternel, comme il dit, l'inexistence de la femme, celle, dit-il, à son dire, qui se perd dans la nuit des temps, à en être la différente. La différente, l'autre à jamais dans sa jouissance, il conclut la phrase, telles ces formes de l'infini dont nous ne commençons l'énumération qu'à savoir que c'est elle qui nous suspendra, nous. Inconfortable vérité, donc, que se dire vrai, à quoi reconduit le dire d'une femme. C'est là aussi ce qui fera l'impudence de son dire. Le lien de la jouissance de la femme à l'impudence du dire, note Lacan, c'est ce qui me paraît important à souligner. Non pas la pudeur, donc, mais l'impudence. Autrement dit, ce qui de façon effrontée, un peu à la façon de Ondine, hein, ce qui de façon effrontée produira la vérité du non-rapport. fructueuse impudence de produire la vérité, dira Lacan ailleurs. On retrouve ainsi au fondement de cette impudence du dire, cette jouissance, qui fera toujours une femme autre, non pas au sens de la femme, mais davantage, me semble-t-il, au sens de la différente, à jamais dans sa jouissance. Pas tout à lui, donc, autant que pas tout à elle-même. Sa jouissance n'en pouvant même. À la pudeur phallique s'oppose donc cette impudence déterminante, mais non identifiante. Dès lors, une femme ne sera pas tout à lui également où elle, au sens où elle ne sera pas toute à se dire. Autre formule de Lacan. Pas toute à se dire, formule qui prolonge et qui précise la première et dont je souhaiterais souligner à présent les conséquences, cette fois sur le plan de la parole, de ce pas toute à se dire. À partir de cette formule, ce pas toute à se dire, on pourrait déjà commencer par questionner la clinique des rapports d'un homme à la parole et au dire d'une femme. On pourra trouver ici, montre Lacan, deux façons au moins pour un homme de se défendre de ce mi-dire de vérité que peut venir incarner une femme, comme pas toutes. Première façon de s'en défendre pourra être l'exigence qu'elle se taise quand elle incarnerait de trop la vérité de son fantasme. Mais à quoi pourra s'ajouter aussi son envers, non son contraire, son envers, qui est l'exigence qu'elle dise le vrai sur le vrai. Il s'agirait cette fois qu'elle puisse satisfaire à la demande de l'homme d'y croire à la femme. Au sens où, incarnant son autre de l'autre, elle pourrait alors lui révéler le dire manquant. Y croire à la femme, note Lacan, c'est en effet lui supposer la possibilité d'un dire. C'est ça ce qu'il faut lui croire. Supposer la possibilité d'un dire qui permettrait de fonder le rapport sexuel. Y croire à la femme, et pour cela, la logique est très précise, y croire à la femme, et pour cela, croire la parole d'une femme. C'est-à-dire, y croire à la femme, et pour cela, croire une femme qui serait sienne. Une femme, puis deux, puis trois, précise Lacan. En effet, démontre-t-il, et là avec le roman Ondine, un homme en fait voudra croire à une espèce, comme l'espèce des Ondines. C'est-à-dire une façon de croire en effet à la femme. C'est ça dans l'énumération. Tentative de croire à la femme et pour surtout ne pas croire qu'à une, avec laquelle, rien dit, tout arrive. Tout arrive et pour cause quand, pas tout à se dire, une femme, et non ça, et non là, viendra de structure désespérer l'exigence première d'un homme. Et d'ailleurs, un homme aura-t-il beau la supplier de dire, fût-ce à genoux, justement, c'est une parfaite divinité, une femme ne sera pas le dieu de sa vie. C'est comme ça que j'entends cette phrase de Lacan dans Encore, quand il nous dit « De cette jouissance, la femme ne sait rien depuis le temps qu'on les supplie. » Et il ajoute, malin, qu'on les supplie à genoux. Et en effet, c'est très rigoureux si on parle qu'un homme veut faire d'une femme le dieu de sa vie. Qu'on les supplie à genoux d'essayer de nous le dire. Eh bien, motus. Alors je passe à présent aux conséquences de ce pas tout à se dire sur le plan du rapport d'une femme à la parole, voire à la parole d'un homme. Puisque si c'est pas tout qu'une femme aime, comme l'énonce Lacan, on peut supposer que cela ne sera pas sans conséquence non seulement dans son rapport au dire vrai, mais aussi à la parole. À la parole, en tant que celle-ci viendra tenter de suppléer cette vérité du non-rapport. Et de fait, il y a chez Lacan beaucoup d'indications dans les années 70 sur le rapport particulier des femmes à la parole, mais aussi à la langue, en un seul mot. Et, je crois que c'est à mettre dans la série, sur la position particulière des femmes psychanalystes, à l'endroit de l'inconscient. Vous savez, il y a plusieurs phrases de thèse de Lacan là-dessus. Enfin voilà, elles sont assez marrantes comme ça, mais elles ne sont pas que marrantes, elles sont extrêmement rigoureuses par rapport à ce qu'il amène comme thèse à cette époque-là. Donc, position particulière des femmes psychanalystes à l'endroit de l'inconscient, avec ce que cela devrait nous apprendre à tous, hommes et femmes. À quoi il faut, me semble-t-il, aussi ajouter le contexte de l'époque, celui d'une prise de parole révolutionnaire, portée notamment par des femmes. Il y a ici, en effet, tout le rapport de Lacan au mouvement féministe de son époque, dont il me semble qu'il y aurait à faire bien plus que l'histoire. Il faudrait en effet prendre le temps de montrer d'une part comment ces femmes surposaient la question du rapport donc, des femmes à la parole. D'autre part, on pourrait aussi montrer l'appui et l'accueil qu'elles trouvèrent pour cela dans le discours analytique et auprès de Lacan. Et enfin, comment c'est aussi dans un dialogue avec ces femmes que Lacan en est venu à reprendre, me semble-t-il, sa théorisation de la sexualité féminine, ainsi que l'a montré Martine Ménès. Il y aurait donc en somme à préciser quel accueil, autre que bouche pincée, Lacan a fait là aussi à la jeunesse de son époque, sans toutefois céder sur l'expérience analytique. C'est ça aussi qui est remarquable. Et notamment, pour une raison précise, qui est qu'une thèse monte dans ces années dans l'école de Lacan, et à laquelle il va répondre très précisément. Cette thèse, portée par des psychanalystes féministes, avance d'une part que le phallocentrisme serait réservé aux hommes, et que d'autre part, celui-ci viendrait consacrer la supériorité de la parole masculine. On trouvera notamment la pointe de cette thèse dans ce qui fut nommé par Jacques Derrida, qui a forgé ce néologisme, de phallogocentrisme. Phallogocentrisme que la psychanalyste Luce Irigaray, membre de l'FP, viendra reprendre dans son ouvrage Spéculum de l'autre sexe, puis diffuser, de même qu'Antoinette Fouque, dans de nombreux travaux. Enfin, ne réservons pas tout cela au passé, quand ce concept de phallocentrisme constitue aujourd'hui une référence majeure chez Judith Butler, notamment, dans sa lecture de l'apport de Lacan sur les questions de genre et de ses implications sur la parole. Alors à ce phallocentrisme, que répond Lacan? Parce qu'il y répond. Il y répond très précisément dans son séminaire Hérésie en 1975, quelques mois seulement après la parution de l'ouvrage de Luce Irigaray. Et il nous dit ceci, rien de plus phallogocentrique, comme on a écrit quelque part, allusion à Luce Irigaray, rien de plus phallogocentrique, comme on a écrit quelque part, qu'une femme, à ceci près qu'aucune d'elles ne toute le veut, le dit Phallus. Pas question, donc, pour Lacan de tomber dans ce qu'il nommera encore le malentendu des femmes. C'est-à-dire de croire que la jouissance phallique serait réservée aux hommes, et d'avancer d'autre part qu'il y aurait une autre jouissance qui viendrait à l'opposé définir le féminin, selon une formule si souvent utilisée aujourd'hui. On sait en effet la thèse de Lacan, la jouissance autre est une jouissance supplémentaire et non complémentaire. De plus, aucune femme ne s'en tient, dit-il là encore, aucune femme ne s'en tient d'être pas toute. Raison pour laquelle elle exigera le phallus, tout en s'y rapportant selon des modes divers, précise-t-il. Donc il y a là tout aussi à explorer ça. Alors à suivre ces élaborations, la parole, ce phallogocentrisme, constituera l'un de ces modes, dont il reste du coup à préciser la particularité. Alors il y a là-dessus beaucoup d'implications de Lacan, que je trouve très complexe, donc je vais faire ici couvrir ce chapitre, si vous voulez ça comme ça, en me limitant à l'articulation pour une femme de la parole au phallus. Et pour cela, pourquoi ne pas revenir à la première d'entre elles, Ève, qui signifie la mère de tous les vivants, et que Lacan rebaptise Evie. Evie, Evie pour non seulement questionner en quoi la dite vie sera parasitée par la parole et le phallus, ce vrai péché originel, mais aussi pour souligner ce que la parole doit à une femme. En effet, première rectification à laquelle Lacan procède, l'idée de l'homme originel, l'idée qu'Adam est celui qui le premier aurait introduit le langage, est une belle connerie. Il est radical là-dessus. Non seulement Adam, nommant les animaux et les choses, ne fait que singer le pouvoir de nomination de Dieu, mais plus encore, Ève est la première qui se servira du langage pour parler. Il voudrait donc ici, propose Lacan, plutôt suivre l'intuition de Joyce, qui d'un joc nous faisait entendre que dans la prononciation anglaise d'Adam, Adam, celui-ci en effet est une madame. Et en effet, que lit-on dans le récit de la Genèse ? Eh bien que, passé la nomination en quoi consiste la création divine, Évie aura de suite, note Lacan, la langue bien pendue. Et sans clair, elle s'en va causer avec le serpent. En d'autres termes, Évie va faire ici se redoubler le processus de nomination d'une autre dimension. Une autre dimension que Lacan appelle la parlotte du parlêtre. Alors, question. Parlant avec le serpent, avec qui Évie parle-t-elle ? Et pourquoi ? Il y a sur ce point, à quelques mois d'intervalle, deux réponses de Lacan qui, quoique pas sans lien, ne me semblent pas tout à fait s'équivaloir. Première de ces réponses se trouve dans la conférence faite à Genève sur le symptôme. Il nous dit que parlant au serpent, que fait Ève ? Elle parle au phallus, dit-il, et cela d'autant plus qu'alors pour elle, c'est hétéro. Précise ça. Autrement dit, elle parle au phallus parce qu'elle y a intérêt. Elle y a intérêt du fait d'être à toutes. Contrairement à ce qu'on croit, dit-il, le phallocentrisme est la meilleure garantie de la femme. La Vierge Marie avec son pied sur la tête du serpent, cela veut dire qu'elle s'en soutient. Voilà donc pour une première lecture. Ce sont les femmes qui ont inventé le langage et la parlotte pour parler donc avec ce qui leur est hétéro, le phallus, et ce faisant, tempérer l'inexistence de la vie. Enfin, inventant cela, elles font se conjoindre la parole et phallus également, avec quelles conséquences ? Là, je passe pour y répondre au second commentaire qu'en fait Lacan, donc quelques mois plus tard, dans son séminaire Symptômes. Donc je reprends la question, parlant au serpent, que fait Évie ? Nouvelle réponse, et là ça se corse, enfin pour moi. Lévie fait du serpent ce que vous me permettrez d'appeler le cerfès, ultérieurement désigné, pourquoi il dit ultérieurement ? Bon. Ultérieurement désigné comme faille, ou mieux, phallus, puisqu'il en faut bien un pour faire le faux pas, faux F-A-U-T. Bon, alors, pour le moment, je comprends les choses ainsi, hein, et j'ai déjà l'idée que ça ne suffit pas. Pour le moment, je comprends les choses ainsi. Lévi parle avec le serpent, parce que le serpent...
Bah oui, forcément.
Forcément, avec le serpent, parce que cela répond à une nécessité, non seulement celle de se soutenir comme femme, mais donc parce qu'il en faut bien un pour faire le faux pas. La suite nous éclaire un peu. Le faux pas renvoie ici pour Lacan au péché originel, le sin, que l'on retrouve dans symptômes. Sin, nous dit-il, ça veut dire en anglais le péché, la première faute. D'où la nécessité du fait que ne cesse pas la faille qui s'agrandit toujours, sauf à subir le cesse de la castration comme possible. Donc, il y a le nécessaire, cette faille qui grandit toujours, ce non-rapport sexuel qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, à quoi Lacan oppose ici le registre non plus du nécessaire, mais du possible. La faille qui s'agrandit toujours, je répète, sauf à subir le cesse de la castration. On sait par ailleurs la façon dont Lacan, dans son séminaire, encore formule le possible, ce qui cesse de s'écrire. Mais remarquons qu'ici, il rectifie sa formulation et qu'il propose, qu'il, dit-il, il faut y mettre la virgule. Le possible, c'est ce qui cesse, virgule, de s'écrire. On a donc la nécessité, l'impossible du non-rapport sexuel, ce qui ne cessera pas de ne pas s'écrire, et nous avons le possible, ce qui cesse, virgule, de s'écrire. Enfin, à suivre Lacan, cette invention féminine de la conjonction de la parole et du phallus serait une façon d'ajouter à l'impossible ce possible. Non pas quelque chose qui résolve l'impossible du non-rapport, mais quelque chose qui rend possible ce qui cesse de s'écrire. Alors, question, en quoi consiste ce passage de l'impossible au possible, tel qu'il l'évoque ici? Lacan a eu l'occasion de le préciser lors de la dernière séance de son séminaire « Dissolution ». Le contexte que j'évoquais plus haut n'a fait que s'intensifier. Et il insiste. Lacan dit, de la jouissance phallique, les femmes n'en sont pas privées. Évidemment, tout équivoque, la thèse passe mal. Hein, se fait rabrouer. Séance d'après, il doit revenir là-dessus. Quelques remarques. Donc il y revient et précise, en souriant, la jouissance phallique, loin de les rapprocher des hommes, loin de rapprocher les femmes des hommes, les en éloigne plutôt, dès lors qu'elle objecte au rapport sexuel. Ça n'identifie pas du tout les femmes comme étant des hommes. Alors, quelles conséquences pour le rapport d'une femme à la parole d'un homme? J'ai rappelé plus haut que Lacan avait abordé le rapport d'un homme à la parole d'une femme. Marquons que pour y croire à la femme, un homme pouvait la croire, où ce « là » venait désigner la parole d'une femme qu'il croyait et voulait être sa femme. En somme, on pourrait dire, voilà qui fera logiquement d'un homme la dupe du mensonge du fantasme, de la promesse de la parole. Une pomme, pensons-y comme une pomme, ça a suffi pour qu'Adam se laisse attraper. Il y a toute une série, dans tout l'enseignement de Lacan, de commentaires sur Adam et Ève qui sont... Dans le rapport, cette fois, d'une femme à la parole d'un homme, que trouverons-nous? D'abord, me semble-t-il, la possibilité d'une croyance également. Un homme rêve la femme, autant que, même si différemment, une femme rêve l'homme. On trouve les deux formules, d'accord. J'y croyais de tout mon corps, me confiait l'une d'entre elles, parlant de jusqu'où sa croyance dans la parole d'un homme avait pu la conduire. Mais pour autant, n'y aurait-il pas ici des différences à faire valoir à partir de la logique du patou? On sait par exemple combien une femme pourra éprouver ne pas être comprise, se dit très couramment, peut-être pas toujours donne son poids de sérieux, pourra éprouver ne pas être comprise quand Lacan indiquera précisément qu'une femme est fondamentalement ce à quoi un homme ne comprend rien, comme à l'amour. Fixé qu'il est au sens phallique. On sait aussi combien une femme pourra, à la différence d'un homme, se méfier, voire dénoncer les fausses promesses de la parole d'un homme, voire des hommes, où tout ici ne serait que pipeau. À cet égard, d'ailleurs, Lacan avait pu aussi indiquer que la connaissance qu'une femme peut avoir d'un homme peut aller très loin, beaucoup plus loin que l'inverse. Peut aller très loin, mais non sans limite, la limite que fonde le non-rapport. Ainsi, la jouissance phallique, en tant qu'elle sépare les partenaires, pourra s'éprouver aussi dans ce rapport à la parole. Mais pour autant, j'y reviens, à l'impossible, ce qu'aurait aussi impossible, lui aussi fondé sur la parole. Je cite donc la phrase d'un étudiant qui l'a indiqué, je vous remercie. Qu'il y ait la jouissance phallique, nous dit Lacan, ça ne veut pas dire, j'ouvre les guillemets, qu'elle ne puisse pas avoir, avec un seul choisi par elle, la satisfaction véritable, phallique. Il ajoute, satisfaction qui se situe de leur ventre. Et il ajoute, mais comme répondant à la parole de l'homme. Et il ajoute encore, évoquant ici la contingence de l'amour, il faut pour ça qu'elle tombe bien. C'est-à-dire qu'elle tombe sur l'homme qui lui parle selon son fantasme fondamental à elle. Dernière phrase, elle en tire effet d'amour quelquefois, de désir toujours. De cette parole particulière, une femme pourra donc retirer effet d'amour parfois, effet de désir toujours. Curieuse partition quand même, semble-t-il. À moins, c'est une hypothèse, qu'on y retrouve celle de la contingence et de la nécessité. Effet de désir toujours, peut-être qu'on ne cessera pas de ne pas s'écrire ce qui conditionne la satisfaction, une jouissance limitée du fait qu'on parle. Et effet d'amour parfois, possible, donc, pour peu qu'une femme tombe bien. À savoir, je redis les trois conditions, qu'elle tombe sur un seul, choisi par elle, et qui lui parle selon son fantasme fondamental à elle. C'est pas si souvent, je trouve, que Lacan parle du fantasme fondamental chez les femmes. Hein? Trois conditions, donc. Ça n'arrive pas si souvent, précise Lacan, et quand ça arrive, ça ne fait pas pour autant rapport. Alors je m'arrête sur ces nuances, ces subtilités saisissantes quand même, par lesquelles Lacan, dans sa parole même, là aussi il y aurait beaucoup à dire, par lesquelles Lacan, dans sa parole même, savait user de ce qui, au-delà de la syntaxe, était selon lui justement une invention des femmes, ce qu'il appelait la prothèse des équivoques. Voilà. Merci.